Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Il est assez rare en réalité qu'on m'invite à parler du patrimoine sculpté du domaine national du Louvre et des Tuileries, et pourtant on a affaire là à ce qu'on appelle communément un musée de sculpture en plein air, avec des œuvres de tout premier plan. Alors plutôt que de vous présenter une sorte de panorama chronologique, thématique des sculptures de ces jardins, j'ai préféré une sensibilisation à leur conservation, puisque après tout, je suis conservateur, et ce terme un petit peu vieillot, quelque peu ridicule, vous allez voir, en l'occurrence, prend tout son sens. Alors un simple rappel en chiffres, dans 5 jardins, je suis chargée de la conservation de 177 sculptures. Vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup. Certains de mes collègues au Louvre, aux Antiquités orientales, par exemple, ont en charge des centaines de milliers d'objets. Donc ces jardins, en réalité, sont plus nombreux qu'on ne croit. Il y a d'abord le jardin Raffet, le jardin de l'Infante, face au pavillon des arts, face au pont des arts et à l'Institut. Le jardin de l'Oratoire le long de la rue de Rivoli, ça c'est ce qu'on appelle les jardins Est dans notre jargon, où il y a quelques sculptures. Et puis bien sûr le jardin du Carrousel entre les deux bras, les deux ailes du Louvre, et enfin le jardin des Tuileries. Tout cela fait donc un total de plus de 30 hectares. Alors le statut de ces œuvres est très divers. Je suis un conservateur qui est en charge d'une collection qui n'est pas... mais je n'ai pas en charge les inventaires. Ces sculptures ont plusieurs statuts différents. La plupart d'entre elles sont des œuvres, tout simplement, qui appartiennent au Louvre, qui sont inscrites sur les inventaires du département des sculptures. Il y a aussi beaucoup de dépôts. La plupart des œuvres du XXe siècle sont des dépôts du CNAPFNAC, c'est-à-dire, en bon langage, le Centre national des arts plastiques, qui a en charge la commande publique, donc le Fonds national d'art contemporain, qui est à la Défense. Nous sommes le premier dépôt avec 31 œuvres de cette institution à l'air libre. Il y a quelques dépôts du musée d'Orsay, des dépôts du musée Rodin, mais il est question qu'ils les reprennent, et puis 3 dépôts du musée national d'art moderne. Et alors qu'il y a quelques années, il y avait plusieurs dépôts de fondations privées, il n'en reste plus qu'un, celui de la fondation Lachaise aux États-Unis. Et puis quelques œuvres sans statut officiel, statut dont je suis en train de m'occuper pour leur donner tout simplement un numéro d'inventaire, une existence administrative. D'autre part, les époques et les styles sont extrêmement différents. Il suffit de se promener dans le jardin. On a là affaire à des œuvres qui, pour les plus anciennes, datent de la fin du XVIIe siècle et la plus récente date de 2000. En fait, il s'agit de l'œuvre d'Anne Rochette exposée dans le potager et du célèbre arbre des voyelles de Giuseppe Pennone mis en paysage par Pascal Cribier. L'œuvre qui a été installée à la date la plus ancienne, l'œuvre qui est depuis le plus longtemps dans le jardin, a été installée en 1716, cela fait donc un peu plus de 3 siècles. En effet, à l'époque de Le Nôtre, il n'y avait pas de sculpture, il y en avait quelques-unes, on trouve des traces de paiement, mais on manque de précision. Et les œuvres pérennes, dont certaines se trouvent toujours au jardin aujourd'hui, ont été apportées sous la Régence en 1716, tout simplement parce que la cour a été rapatriée de Versailles vers Paris par le Régent, et que pour orner dignement le jardin du petit Louis XV, il fallait bien des sculptures. Donc on a prélevé évidemment sur les sculptures de Versailles et de Marly. Et donc, j'attire votre attention déjà sur le fait que je m'occupe quand même de collections qui sont en plein air depuis 1716, mais certaines même qui étaient auparavant à Versailles et à Marly sont en plein air depuis bien plus longtemps que cela. Il y a quelques moulages, contrairement à une légende tenace. Il n'y a que 27 moulages sur 177 sculptures, ce qui est quand même peu. Et puis des œuvres contemporaines, donc il s'agit de ce qui a été apporté après la restauration du jardin par Pascal Cribier, Louis Bénèche et François Roubaud. Il s'agit des œuvres qui ont été installées à l'instigation du sculpteur actuel Alain Kirilli en 1998 et en 2000. Donc une très grande variété d'œuvres, la plus ancienne datant de 1687, ce qui est quand même très ancien. Les matériaux sont extrêmement divers. Donc, j'essaie de faire une arborescence ici qui vous donne une idée des proportions. Donc, beaucoup de marbre, bien entendu, quelques œuvres en pierre. Quand je dis marbre, c'est du Carrare, du Saint-Béat. Quelques moulages. Alors là, c'est toujours un mélange de résine et de poudre marbre ou de pierre. Donc, voilà pour les matériaux pierreux qui sont la majorité, ce qui va évidemment poser des problèmes de conservation. Et sinon, des bronzes, peu. Alors, dans le cas des œuvres de Mayol qui sont au nombre de 20 et qui peuplent très joliment le jardin du Carrousel, c'est une majorité de bronze, mais il y a quelques plombs. Et puis, des œuvres en fonte de fer dans l'art contemporain de l'acier et également des œuvres en résine. Je pense qu'à un Dubuffet que je vous montrerai un petit peu plus tard, avec toutes sortes de matériaux de surface, de la peinture acrylique, polyuréthane, etc. Donc, pour un conservateur chargé des sculptures, tout ça est joyeusement varié. Alors, évidemment, les facteurs d'altération se cumulent sur une collection de ce type, aussi hétérogène. Les facteurs sont nombreux. Alors, je fais exprès de commencer par un point de vue étrange. Voilà ce qu'on peut voir hein, quand on est un peu petit, comme moi. Et qu'on bénéficie parfois d'un très bel éclairage. En fait, mon travail consiste bien sûr à avoir une vision globale de ce jardin, mais surtout à examiner les sculptures dans leurs plus petits détails pour mesurer leur degré de dégradation et l'avancement de ces dégradations. Voilà, donc je mets mon nez sur les plantes de pied. Regardez, par exemple, ici, vous voyez très bien, pas besoin d'avoir fait de l'histoire de l'art ou d'être conservateur pour se rendre compte qu'ici, les motifs délicieux d'hippopotames, d'ichneumones qui peuplent les rives du Nil eh bien sont considérablement effacés et cela ne va pas s'arranger. Je vais essayer de dire de manière joyeuse des choses un peu tristes. Alors voilà. Alors il y a ce qu'on appelle les facteurs d'altération, on va dire qu'ils sont de l'ordre de la dégradation naturelle. Mais si j'ai mis des guillemets, c'est parce que nous ne sommes évidemment pas là dans la nature, mais bien plus dans la culture. Et que l'homme est pour beaucoup dans ces dégradations. La pollution, bien sûr, qui touche beaucoup les œuvres. Quand on nettoie une sculpture au jardin des Tuileries, elle ne redevient jamais blanche. À Versailles, oui. Chez nous, non. Elle reste toujours un peu grisâtre. Et puis, il y a ce que font les hommes. Je pense à ce charmeur de pigeons qui sévit au jardin du Carrousel et dont nous ne venons pas nous débarrasser, ou cette charmante vieille dame qui croit bon de nourrir les pigeons au pain, mais ces pigeons dégradent évidemment fortement les sculptures. Alors, il y a quelques cas extrêmes. J'aime beaucoup celui-ci. Donc, moi, je traque les photos anciennes du jardin parce qu'elles nous renseignent sur l'état du jardin en tant que jardin et l'état des sculptures. Alors, voilà une œuvre, une des plus anciennes. Le Nil, c'est une copie d'après une antique célèbre des musées du Vatican qui date de 1687-1692, qui est très précieuse parce qu'elle correspond à un état de l'œuvre, de l'antique, avant restauration. Donc elle a vraiment une valeur documentaire insigne. Et en fait, grouillait autrefois autour de ce magnifique dieu fleuve des putti, pas plus grands que ça. Il y en avait 16 qui symbolisent tout simplement les 16 coudées que doit atteindre la crue du Nil pour fertiliser l'Égypte. Eh bien, tous ces enfants ont perdu leur tête. Il n'en reste plus que deux qui ont leur tête. Voilà. Et cette photographie de Charles Nègre, une des toutes premières photographies connues du Jardin des Tuileries, permet de mesurer l'ampleur des dégâts. Alors, ces têtes n'ont pas été lessivées par la pluie, elles ont été volées. Quel charmant souvenir à emmener chez soi. Donc ça, c'est vraiment le vandalisme volontaire délibéré. Alors, on en voit tous les jours. Donc moi, quand je suis là, je fais des photos. Donc voilà, on fait une course au jardin. Et puis, ah, comme c'est drôle d'affubler les trois grâces de Mayol, les trois nymphes de Mayol de t-shirt. La nuit, comme la partie du jardin du Carrousel n'est pas fermée la nuit, le pauvre gardien a un peu du mal. Il y a des fêtes très alcoolisées, d'autant plus qu'il y a un restaurant à côté. Et voilà, par exemple, on a mis une bougie dans la main de cette sculpture. Alors, je pourrais vous en montrer des dizaines, je fais juste une petite sélection. Voilà, toujours les trois nymphes à droite. Les gens croient bien faire, se disent, bon, sortent souvent du Louvre, ils ont été très, très vissés, très serrés de près par les agents d'accueil et de surveillance. Donc on arrive dans le jardin, on est en plein air, on peut faire ce qu'on veut. Et la démarche la plus fréquente, qui abîme les œuvres sans qu'on s'en rende compte, évidemment, consiste à grimper sur une sculpture et à faire une photo très, très amusante. Ce sont des choses que j'ai trouvées sur Internet, par exemple. Voilà. Alors, on peut parler d'une véritable tradition du vandalisme. Si un jour il y a un colloque sur le vandalisme, je me précipiterai pour faire une communication, proposer une communication sur le sujet, parce qu'on peut raconter l'histoire du vandalisme à travers celle du jardin des Tuileries. Donc, j'ai pris au hasard une photographie, une coupure de presse que m'a donnée un de mes cousins, la fête du Big Bazar, c'était le Big Bazar de Michel Fugain, pour ceux qui ont connu les années 70, c'est culte. Et puis ça, cette image terrible, ça a été l'Euro de football l'année dernière, qui a été mon cauchemar. Nous avons vu arriver un jour une armée de supporters suédois en t-shirt jaune et bleu, évidemment avec des packs de bière, vous imaginez, qui ont pris le jardin des Tuileries pour une fan zone. Donc on a réussi à contenir à peu près la foule. Moi, je leur demandais de descendre des sculptures. Et c'était fantastique. En un quart d'heure, le jardin est devenu ça. Et ensuite, il nous a fallu des mois pour retirer les capsules de bouteilles de bière qui étaient fichées dans le sol. Alors, il y a eu un dégât sur une sculpture, on a eu de la chance, pas plus que ça. Donc, c'est vous dire que le patrimoine du jardin des Tuileries réclame vraiment de notre part, je ne parle pas en mon nom propre, mais évidemment au nom d'une équipe de surveillance, des jardiniers qui sont très concernés. C'est une lutte permanente qui suppose une méthode très au point, une méthode de veille, d'entretien et évidemment des traitements. Donc je travaille avec des restaurateurs dûment formés dans les écoles de restauration. Alors le travail de veille consiste par exemple à aller régulièrement prendre sous le même angle, à peu près sous le même éclairage, des photos de détails pour mesurer l'augmentation des graffitis sur le dos de cette merveilleuse sculpture de Mayol intitulée « La nuit ». Les restaurateurs donc et moi, nous avons mis au point un système en demandant aux ayants droit, puisque dans le cas d'œuvres modernes, souvent les ayants droit sont encore vivants, et on est obligé de leur rendre compte. Donc on procède au chauffage de la surface du bronze à l'aide de, vous voyez, d'un petit chalumeau, et c'est assez bricolé, avec une bouteille de gaz, et on recouvre la surface d'une couche de cire dite microcristalline qui fait joliment briller la sculpture et qui fait qu'en cas de graffiti et surtout de tag, il n'y a pas pénétration, la surface de l'œuvre n'est pas abîmée. Donc ça donne un joli aspect de surface, mais ça a surtout un rôle vraiment protecteur très très efficace. Alors je procède par gradation dans le traitement le plus simple et puis le plus invasif, le plus complexe, le plus pérenne aussi. Nous procédons régulièrement à ce qu'on appelle un traitement biocide. Alors rassurez-vous, mesdames et messieurs qui aimez les plantes, c'est extrêmement dilué. Hein, donc ce sont des biocides qui sont mis au point par le laboratoire de recherche des monuments historiques. Donc, évidemment, nous ne choisissons que des produits qui ne sont pas nocifs pour les plantes, qui n'attaquent que les lichens et les algues, qui prolifèrent évidemment beaucoup. Donc, ça donne des scènes un peu surréalistes, comme ça, de restauratrices qui projettent les produits et qui ensuite brossent et frottent. C'est un travail physiquement très difficile, en plus en présence d'un public très nombreux, avec parfois des remarques pas toujours très agréables de la part des visiteurs. Voilà. Donc elles ont vraiment beaucoup de mérite. C'est la raison pour laquelle je mets toujours sur ce genre de diapositive les noms des restaurateurs et des restauratrices. Et puis, parfois, des interventions plus importantes. Donc, j'ai fait faire un rapport complet sur les 26 vases qui sont présents au Grand Carré au Jardin des Tuileries. Et on a commencé par faire restaurer les plus atteints, avec des résultats formidables. Par exemple, ce merveilleux vase de Bernard Lange qui date de 1828, c'est une paire, parce qu'aux Tuileries, tout fonctionne en symétrique par paire. Ils sont obligés de micro-sabler avec un véritable costume de cosmonaute. Et le résultat était vraiment à la hauteur des espérances. Bon, ça, c'est une œuvre, par exemple, il y avait une anse qui avait été cassée, justement, par les supporters suédois le 6 juin 2016. Ça m'avait désolée. Alors évidemment, je dispose d'un budget qui est de 50 000 euros par an, que pour le moment j'arrive à préserver, qui ne me permet pas de tout faire. Donc, je dois absolument prioriser les urgences. Donc, il m'est apparu l'année dernière, par exemple, que ces deux sculptures d'Edmond Lévesque, style Bellefontaine, très charmant, qui se trouvent juste à l'entrée du jardin, en contrebas des marches redessinées par Pascal Cribier et Louis Bénèche. Je trouvais anormal que ces œuvres s'abîment, mais surtout qu'on accueille le visiteur dans l'entrée est à partir du Louvre par des statues qui, vous voyez, l'état en 2009 et l'état en 2016 étaient vraiment très sales. Donc ça a été fait cette année. Et puis, à la fin de tout ce processus, il faut évidemment faire des bilans, et ça j'y tiens énormément, constituer des archives, garder la trace de toutes, je dis bien toutes, les interventions qui ont pu être faites sur des œuvres, même quand elles sont récurrentes. Alors par exemple, le joli monument à Le Nôtre, inauguré en 2013, qui se trouve maintenant à l'entrée Concorde, en 1913, pardon, qui se trouve maintenant à l'entrée Concorde, c'est un buste en bronze, d'après Coisevaux, qui prend toute la poussière venue de l'Est. Je n'ai pas parlé du facteur vent et poussière, mais vous doutez bien que ce facteur est très important. Eh bien, on le fait nettoyer plusieurs fois par an. Il y a une veille qui est établie par une restauratrice ou un restaurateur. Et eh bien, à chaque intervention, même si c'est toujours la même intervention, on garde des traces. Et les dossiers sont donc parfaitement consultables dans mon bureau, puisque je suis aussi ma propre documentaliste. Alors maintenant, deux exemples extrêmes. Alexandre et Diane, car je ne l'ai pas dit, mais évidemment, toutes ces sculptures nous racontent toutes des histoires de dieux, de héros, sont sorties des métamorphoses d'Ovide, nous parlent de la gloire, du pouvoir, de l'amour. Ce sont des thèmes évidemment très fréquents dans la statuaire de jardin. Alors, nous allons ici nous transporter autour du grand bassin rond, qui a été surtout peuplé à partir de 1831, de statues. Donc, pour nous situer, je vais vous parler de deux sculptures. Ici donc, se trouve le Louvre et à gauche la Concorde. Le plan est orienté est-ouest. Je vais vous parler de la sculpture représentant Alexandre, ici, Alexandre combattant, par M. Nanteuil. Et ici, la Diane que je vous ai déjà montrée, la Diane d'Edmond Lévesque. Alors, l'Alexandre, c'est un cas extrême. Il a été commandé par Louis-Philippe en 1831 pour ce qu'on a appelé le jardin réservé. Louis-Philippe a demandé à l'architecte Fontaine de détruire en grande partie les parterres en forme de croix de Saint-André qui dataient de Le Nôtre et d'établir une sorte de bande de jardin au pied du palais des Tuileries, ce qui évidemment a fait hurler tout le monde à l'époque parce qu'il détruisait en partie l'œuvre de Le Nôtre. Et cette bande de jardin réservé a été ornée de 8 statues représentant des exemplaires virtutis, des grands hommes de l'Antiquité, Alexandre, César, Saint-Sinatus, etc. Œuvre évidemment moralement très édifiante. Et le marbre qui a été choisi à l'époque pour la plupart de ces sculptures était de mauvaise qualité. Ce n'était pas du tout un Carrare aussi solide que celui de Louis XIV. Donc le pauvre Alexandre a perdu un certain pourcentage de sa surface. Et c'est d'autant plus dommageable que nous disposons pour ces œuvres-là, pour les représentations les plus anciennes, on est avant l'invention de la photographie, de merveilleux dessins au trait qui ont été publiés par l'historien de la sculpture, Clarac. Donc, vous pouvez jouer au jeu des comparaisons. Regardez tout ce qu'a perdu ce pauvre Alexandre, son bras avec son bouclier. Vous voyez que le cimier du casque, ici, eh bien, il en manque une bonne partie. Le bras tenant le glaive, il n'y a plus le poignet, plus la main, plus le glaive. La jambe arrière fléchie a perdu sa cheville, son pied. Et l'état de surface est absolument effrayant. C'est pour ça que je n'hésite pas à dire que cette œuvre est dans un état de ruine avancée. Alors, mon travail consiste évidemment à documenter toutes ces œuvres. Je traque toutes les photos et heureusement, il y a eu, comme toujours, le merveilleux Eugène Adjet qui, de son propre chef, avant et un peu après la Première Guerre mondiale, a fait d'innombrables photos des statues du jardin. Et là, on se rend compte que eh bien, la statue était quand même en assez bon état encore à l'époque. Vous voyez que le pied y est, le glaive y est, le cimier est à peu près intact. Voilà. La conclusion, c'est que les dégâts ont été surtout commis au XXe siècle, il faut bien le dire. Voilà aujourd'hui des photos de détail. Donc, le marbre est devenu ce qu'on appelle un marbre pouf ou saccharoïde. Si je le touchais, je pourrais le transformer en sucre. L'état de surface, l'épiderme a complètement disparu. Il y a évidemment beaucoup de traces de salissure à peu près impossibles à enlever. Et j'ai fait faire un rapport par une restauratrice pour essayer de mesurer, terme après terme, si je puis dire, hein, l'évolution, savoir si vraiment ces photos montraient une évolution des dégradations. Donc en traquant toutes les photos récentes, et ce qui est triste, c'est qu'en fait des photos de détail, on ne pense jamais en prendre suffisamment. Donc d'après une photo de 1996, voilà le résultat, on se rend compte qu'ici, eh bien, la desquamation a augmenté. Voilà ce que ça donne. Et qu'elle est active. Donc dans un appareil, il faut consolider. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien, Alexandre a été victime, avec 6 autres sculptures du jardin, d'une violente agression qui a eu lieu cette année, dans la nuit du 10 au 11 mars, d'un vendredi au samedi, nuit de pleine lune, malgré le système de surveillance mis en place dans le jardin des Tuileries, malgré les alarmes, un ou des individus, on ne sait pas, ont pénétré dans le jardin et ont cassé 7 des sculptures situées au bassin rond. Donc, Alexandre, qui n'en avait pas besoin, a perdu encore un morceau de bras. Les individus ont profité des gros cartels en pierre, s'en sont servis comme marchepied et ont arraché ce bras qui, heureusement, était retrouvé le matin même sur une pelouse. Donc les équipes de surveillance de jour, au moment de leur ronde, ont été absolument désolées, traumatisées, on peut le dire, de découvrir d'innombrables fragments. Nous les avons ramassés pieusement. Nous avons évidemment porté plainte. L'enquête est en cours. Et on a la chance d'avoir un capitaine de police au commissariat du Palais-Royal qui est très concerné par l'affaire et qui travaille à fond. Et on se parle régulièrement. Bref, l'enquête avance, c'est tout ce que je peux dire. Donc évidemment, ce bras est en cours de recollage. Alors, je vous ai déjà montré cette image dans la série « Prioriser les urgences ». Donc je savais que cette année, il fallait nettoyer cette sculpture représentant Diane, donc celle-ci, pardon. Et eh bien, elle aussi a été fortement abîmée. Donc regardez, les merveilleuses pattes du lévrier ont été d'une finesse extraordinaire. C'est quand même une statue qui avait traversé à peu près intacte plus d'un siècle. Ont été violemment et bêtement cassées. Alors, quand on la regarde de trois quarts arrière, on a l'impression que le lévrier est devenu une espèce de kangourou. Enfin, c'était une vue absolument intolérable. C'est pour ça que j'ai intitulé ça « Quand l'urgence chasse l'urgence ». Donc j'ai vite fait faire des évaluations, donner les valeurs d'assurance, parce qu'il a fallu que je donne au commissaire évidemment l'évaluation financière des dégâts. Et voilà donc les fragments qui ont été ramassés. Donc certains ont pu être exploités, mais d'autres minuscules, on n'a pas du tout pu en faire quoi que ce soit. Ça va, vous déprimez pas trop? C'est dur, hein? C'est très dur à admettre. Alors heureusement, alors j'ai des images positives. Donc après, il s'agit de trouver un restaurateur ou une restauratrice sachant sculpter, sachant modeler. Et c'est là où on se rend compte qu'on ne prend jamais assez de photos. Je n'avais pas assez de photos sous tous les angles de ces sculptures. Donc j'ai fait des recherches iconographiques invraisemblables. Et dans un livre, par exemple, sur le corps de la femme et ses déformations physiques ou comment les éviter, SIC, un ouvrage qui date de 1921, eh bien, c'était un des premiers ouvrages qui a été écrit pour expliquer aux femmes que pour se maintenir en forme physique et rester belle, il fallait qu'elles fassent du sport. Mais à l'époque, on ne pouvait pas illustrer ça par des photos de nus. Donc, il avait le monsieur, l'auteur de cet immortel chef-d'œuvre de médecine hygiénique, avait demandé à un photographe de d'utiliser les photos des jardins publics, des espaces publics. Et j'ai trouvé une merveilleuse photo de profil, la seule photo de profil que j'avais vraiment, qui nous a permis de reconstituer correctement les pattes de ce délicat lévrier. Donc je suis contente de pouvoir vous montrer avant et après. Alors, je ne parle pas du coût, évidemment, que ça représentait, parce qu'évidemment, on ne m'a pas donné d'argent en plus, même si j'ai pleuré en disant j'ai 7 sculptures de plus à restaurer. Non, c'était à euro constant, comme on dit. Alors, il y a un cas très intéressant, c'est celui des vases de jardin. Je ne sais pas si vous aimez les vases de jardin, moi j'adore ça. Je trouve que ça apporte beaucoup de poésie au jardin. Je les regarde parfois plus que les statues ou les groupes sculptés. Et pour mon bonheur, il y a beaucoup de vases au jardin des Tuileries. Il y en a par exemple 34, tous identiques, qui ponctuent la grille de 1818 le long du jardin des Tuileries. Sauf que quand j'ai été nommée à ce poste, j'ai fait ma petite tournée, j'ai découvert avec horreur que certains vases étaient fortement écornés. Et j'avais un petit peu peur quand même pour les passants dessous, parce que je ne suis pas seulement responsable des collections, mais aussi des êtres humains qui fréquentent le jardin et ses abords. Donc on a fait faire une inspection systématique. Là, vous voyez l'horrible roue de M. Campion, une des horribles roues de M. Campion. Et heureusement, aucun vase ne risquait de tomber. Mais enfin, je sais qu'il va falloir que je fasse faire cette inspection quand même assez régulièrement. Donc voilà ce que ça peut donner. On se rend compte qu'il y a eu quand même pas mal de réparations, des agrafes assez brutales qui évidemment ne se voient pas du tout d'en bas. Et puis à l'intérieur du jardin des Tuileries, des très jolis vases, celui-ci que je vous ai déjà montré. Donc j'ai fait faire tout simplement une étude complète sur 2 années budgétaires de l'ensemble des vases pour vérifier leur état. Alors ces vases sont tous des originaux, très anciens, datant pour la plupart de la fin du XVIIe siècle, rapatriés de Versailles, de Marly, des petits chefs-d'œuvre de sculpture ornementale et décorative, souvent signés des plus grands sculpteurs de l'époque d'ailleurs. Et puis il y a quelques moulages. Donc voilà ce que ça a donné. Alors on découvre des altérations très frappantes, bon, outre la saleté incrustée, les algues, les moisissures, les lichens. Un degré d'usure qui ne se perçoit pas hein, vu de loin, des fentes assez inquiétantes, et puis les vases, alors même que, comme on le voit sur les photos d'Adjet, contenaient souvent des fleurs, c'était très joli, très poétique, depuis plusieurs années, on ne met plus rien dedans, mais on n'a jamais eu l'argent pour se payer, oui, je fais attention, des couvercles de plomb. Donc, ils ne sont pas couverts, et on trouve certes de la terre, des déchets végétaux, mais on trouve aussi évidemment beaucoup de... voilà, les gens s'en servent comme de paniers de basket, donc on trouve des canettes, un petit peu de tout. Donc voilà le genre de fiche de constat d'état que produisent les restauratrices qui me servent à bâtir ensuite ma programmation. Puis on trouve aussi des bizarreries, par exemple des vases industriels en fonte de fer, dont on ne s'était jamais occupé, que j'ai fait entièrement restaurer. Je passe vite, mais en fait il s'agit de ces vases inspirés des vases de Versailles, comme on en trouve dans beaucoup de jardins. Il y en a beaucoup, par exemple, à Vaux-le-Vicomte. Et les études ont montré qu'ils correspondaient à un ancien décor à l'entrée Solferino datant du Second Empire. Donc c'est l'occasion, une fois qu'on restaure, de remettre les vases à leur emplacement d'origine. Et je voudrais en terminer avec, cette fois-ci, revenons quand même, nous sommes à la Société nationale d'horticulture de France, reparlons du végétal, parce que quand on est conservateur de musée, qu'on a eu l'habitude de s'occuper d'œuvres à l'intérieur, il faut réfléchir, je pense, avec une autre logique quand on s'occupe d'œuvres à l'intérieur d'un jardin. Et je pense vraiment que là, pour le coup, le végétal peut venir au secours des sculptures. Voici des mailloles taguées, retaguées, re-retaguées. Vous voyez le 2 juillet, le 3 juillet, le 23 juillet, en rose, en violet, en blanc. En doré, ça c'était toujours pendant l'Euro de football. Donc j'en ai eu assez et j'ai demandé à... C'était même aussi gravé, vous voyez, France 2016, il y a même la date, pourquoi pas le nom. Donc j'ai demandé aux jardiniers ce qu'ils en pensaient et on a mis au point un système de mise à distance végétale qui évidemment a bénéficié des conseils et de l'accord de Jacques Wirtz, le créateur du jardin du Carousel. Donc, on se rend compte que si on on arrive à faire mieux dialoguer le végétal et les sculptures, eh bien, on parvient quand même à protéger ce patrimoine extrêmement précieux. Donc voilà l'état dans lequel est cette mise à distance végétale autour de ce chef-d'œuvre de Mayol, l'air. Ça va évoluer, ça va devenir une sorte de table verte sur laquelle la sculpture va flotter. Donc voilà, vous voyez qu'on est passé un peu d'une sorte de big bazar dans les années 60-70 à quelque chose de plus raisonné. Alors l'avenir va être pour nous, quelle sculpture nous maintenons encore au jardin, sachant qu'il y en a, vous avez vu que l'Alexandre, on fait vraiment de l'acharnement thérapeutique sur cette sculpture, et comment désormais nous allons pouvoir installer éventuellement d'autres œuvres, faire des remplacements, etc. Je termine par cette photo des fleurissements de cette année, où je trouve vraiment que nos jardiniers se sont surpassés. Je vous remercie de votre attention.